On a interrompu notre étude des petits prophètes depuis. On avait commencé il y a quelques mois et on a choisi de faire une petite série pendant l'été sur les combats de la vie. Les combats de la vie. Tous autant que nous sommes, chrétiens ou pas, nous sommes confrontés à des difficultés. La semaine dernière, nous avons regardé le combat contre la peur suite aux événements qui se sont passés maintenant le 14 juillet à Nice au soir. Une peur plus grande s'est peut-être installée dans vos cœurs et on a vu comment on pouvait combattre cela. On a regardé. À chaque fois, on essaye de trouver un passage qui traite du problème en question, qui nous donne des clés pour avoir la victoire sur ces combats de la vie, dans ces combats de la vie. Et on a vu que la peur, on pouvait, dans le psaume 27, on avait vu qu'elle se combattait en étant conscient de la présence de Dieu. Si vous êtes chrétien, Dieu est en vous. Dieu, par son Saint-Esprit, est venu habiter en vous. Et cette présence, elle doit vous rassurer et vous pouvez lui faire confiance. On a vu aussi justement que cette confiance, elle se manifeste dans la foi de ses promesses, les promesses de Dieu. On y reviendra. Je vous recommande, si vous n'avez pas encore vu ou lu, si vous n'avez pas un exemplaire, il en reste deux exemplaires au comptoir. Vous voyez avec Daniela à la fin du culte, le guide personnel des promesses de Dieu. Il y a 866 promesses qui traitent des promesses dans différents domaines. Et je sais que personnellement, je l'avais déjà partagé, ce petit livre, en fait, il avait ouvert mon cœur au Seigneur. Je n'étais pas encore chrétien, je partais pour être 3 mois loin de ma famille. Et à l'aéroport, aux États-Unis, il y a encore des stands de Playboy, de Playgirl ou je ne sais pas quoi. Et il y a des stands aussi de livres chrétiens. Et à l'époque, pour moi, ça ne faisait pas trop de différence. Mais j'avais été attiré vers ce distributeur ou ce présentoir de livres chrétiens. Et j'avais saisi ce petit livre, c'était en anglais, « Le guide personnel des promesses de Dieu ». Et j'avais commencé à feuilleter et ça m'avait fait du bien. Les promesses de Dieu, elles sont pleines de vie, elles sont pleines d'espérance, elles sont pleines de beauté, de bonté. Et donc, connaître les promesses de Dieu pour pouvoir les prier, pour dire « Seigneur, tu as promis que tu ferais ceci, que tu ferais cela. Donc Seigneur, je veux te faire confiance. » J'aime bien l'histoire d'un missionnaire. Il paraît que c'est une histoire. C'est d'autres missionnaires qui me l'avaient raconté. Et ce missionnaire, il priait les promesses de Dieu. Il traversait une période difficile. Je crois que c'était en Afrique avec sa famille. Et il avait simplement tourné la Bible, il avait ouvert la Bible au passage qui disait que tu ne laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Et il priait cette promesse. Et puis il était un peu fatigué de parler, donc il avait simplement mis la Bible sur sa tête. Et il rappelait au Seigneur la promesse. Je vous raconte ça parce que ça m'avait frappé de dire qu'on peut rappeler les promesses de Dieu, pas que Dieu les ait oubliées, mais ça nous les rappelle à nous. Et ça nous donne confiance. Donc la présence de Dieu, les promesses de Dieu et l'amour de Dieu, ça c'était ce qu'on avait vu pour lutter contre la peur. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est très proche de la peur, mais qui sont les soucis. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre la peur et les soucis? Pas tout à fait. Il y a une relation, bien sûr. On pourrait dire que Le mot souci, il vient du mot latin qui veut dire remuer, agiter, troubler. Si vous avez l'occasion de faire de la randonnée cet été, d'aller vous promener dans la nature, vous savez qu'il n'y a rien de plus beau quand on a bien soif, quand on a très chaud, que de trouver une fontaine avec de l'eau pure. Alors, ce n'est pas toujours recommandé parce qu'on ne sait jamais d'où elle vient. Mais vous savez que dès qu'on commence à boire, si on est un petit groupe, le premier trouve de l'eau pure. Et si vous êtes le 10e ou le 12e, vous trouvez une eau agitée, une eau chargée en sable, en saleté. Et c'est parce que l'eau a été agitée, l'eau a été troublée. Et de la même façon, nous qui devrions avoir une relation de paix et de joie avec Dieu, ces soucis viennent remuer, agiter. Voilà. On va remettre cette étude au Seigneur. Seigneur, tu vois que si nous sommes honnêtes, nous sommes tous tracassés, agités, plus ou moins, par des soucis qui peuvent être des choses qui se répètent, ou des choses qui sont dues à des circonstances, à des personnes, des choses qui sont dues à notre relation avec toi, relation avec les autres. Mais toi, tu veux nous donner la paix. Tu veux nous permettre d'être comme cette eau limpide qui peut briller pour toi, Seigneur. Pardonne-nous lorsque nous donnons trop d'importance à ces soucis. Merci de nous aider à avoir dans ta parole quelques remèdes à ce combat contre les soucis, Seigneur. Un remède contre les soucis, Seigneur. Merci parce que ta parole est pleine de conseils comment éviter la peur et les soucis, Seigneur. Ne crains rien, tu nous le répètes plus de 365 fois. 366, certains disent. Comme une fois chaque jour, une fois par jour, tu veux nous rappeler que si nous te connaissons, si nous sommes sauvés, si tu es notre Seigneur et notre Maître, alors nous n'avons aucune raison de nous faire du souci. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Comme je le disais dans la prière, on a le choix pour trouver des passages qui parlent des soucis, parce que plein de passages nous encouragent à éviter les soucis, l'inquiétude, et on a vu la semaine dernière les peurs. On est presque empêché de manque de foi lorsqu'on se fait du souci. Je ne veux pas vous culpabiliser, mais vraiment, si nous avons foi dans notre Seigneur, nous devrions tout lui remettre et nous attendre à son intervention pleine de sagesse et d'à-propos, et ne pas être agité. On a le mot de peur, on l'a vu la semaine dernière, c'est l'idée que quelque chose de grave, souvent de funeste, risque d'arriver. Les soucis, c'est à un degré moindre, l'idée qu'il y a des choses qui vont pas tourner comme nous le souhaiterions, qu'il y a des risques aussi. Et ce qui caractérise les deux, c'est la peur comme les soucis se matérialisent que très rarement. Alors c'est vrai que On peut avoir peur de prendre l'avion. Et on vous dit qu'objectivement, en fait, il y a moins de chances d'avoir un accident en avion qu'en traversant la rue. N'empêche, on se dit, une fois qu'on est dans l'avion et qu'il y a un problème de la fumée qui sort ou une fenêtre qui s'ouvre, graphiquement, émotionnellement, on a plus peur de cela. Et statistiquement, les choses pour lesquelles on a peur, dont on a peur, les choses pour lesquelles on se fait du souci, elles n'arrivent que très très rarement. N'empêche, on le voit avec la psychose aux attentats, qui fait qu'il suffit d'un endroit où il se passe quelque chose, et puis des répliques qui seraient peut-être minimisées si les médias ne tournaient pas en boucle sur ces attentats et ces problèmes. Et on a ça à l'esprit. Mercredi prochain, je suis convoqué avec beaucoup de pasteurs, d'imams, de rabbins, de responsables de lieux de culte pour que le sous-préfet chargé de la sécurité à Nice nous donne des conseils sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a la précaution et la préoccupation excessive. Le fait que la responsabilité personnelle des maires et des responsables politiques puisse être engagée dans les cas de problèmes graves fait que maintenant on nous oppose le principe de précaution. Précaution, et on ne fait plus rien. C'est une chose dans le domaine public, et je ne jette pas la pierre à ces responsables qui annulent des manifestations, c'est à eux de voir. Mais par contre, en ce qui concerne nous, les chrétiens, notre relation avec Dieu, il y a un principe de précaution qui est celui que l'on doit compter le coût lorsqu'on entreprend quelque chose avant de se lancer dans une construction, dans un projet. Mais en même temps, si on a la conviction que le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, nous pouvons avoir la paix. Et la meilleure préoccupation, c'est d'être préoccupé de faire sa volonté. J'ai souvent cité mon exemple personnel. Lorsque j'ai quitté mon emploi, je travaillais dans l'informatique à Seattle, aux États-Unis. J'aimais beaucoup mon travail, mais j'ai acquis peu à peu la conviction que le Seigneur voulait que je fasse une démarche de foi en venant en France pour essayer de le servir, soit en faisant des études bibliques dans notre quartier, soit peut-être en commençant une église. La grosse difficulté, c'est souvent les soucis, ça peut être du côté du matériel, mais on y reviendra. C'était de me dire, j'avais un chèque qui tombait tous les mois. Là-bas, c'était même tous les 15 jours. Et du jour au lendemain, je devais compter sur le Seigneur pour pourvoir à mes besoins. Que ce soit par l'intermédiaire d'amis qui étaient prêts à s'engager, à nous soutenir financièrement, soit même quelques églises, dont notre église de Seattle, le Jordan Taylor et le fils de notre pasteur Wayne, qui sera là, et il sera là la semaine prochaine. Mais n'ayant jamais vécu de cette façon, c'était quelque chose de très préoccupant. C'était un obstacle à surmonter. Et finalement, après des mois de tergiversation, j'ai acquis la conviction que oui, je pouvais faire confiance au Seigneur. Et j'avais cette promesse dans les psaumes que le psalmiste dit qu'il n'a jamais vu les enfants du juste mendier pour du pain. Ça, c'était bien. Je pensais que Tonio et Sébastien auraient un peu de pain. Mais quand même, c'était pas évident. Et je me suis dit en plus, mais ça, c'est pour le juste. Et moi, Seigneur, tu sais que je ne suis pas juste. Et là, je vous l'ai déjà dit, c'est comme le Seigneur me disait, mais ce n'est pas ta justice qui compte, c'est la justice de mon Fils, Jésus-Christ, qui est sur toi. Donc, tu es juste. Et cette promesse s'applique à toi. Et donc, on a largué les amarres, on a tout vendu, et on est venu s'installer à Nice, où j'avais de la famille à Antibes. On avait connu un pasteur qui nous avait dit qu'on pouvait venir travailler dans son église, etc. Mais ce qui m'a frappé, c'est que 2 ans plus tard, on a eu l'occasion de pouvoir revenir visiter la famille de Nancy, rendre visite à mes anciens collègues. Et ce qui était remarquable, c'est qu'en fait, depuis que j'étais parti, il y avait eu pas mal de restructurations. Le siège de la compagnie des téléphones qui s'occupait du nord-ouest de Seattle s'était déplacé à Denver, dans le Colorado. Et beaucoup de personnes avaient été mises à pied. Et quand je suis retourné, c'était comme si le Seigneur me disait « Alors, qui c'est ta sécurité ? C'est ton employeur ou c'est moi ?» Et cet exemple, c'est une combinaison de promesses et de convictions de la présence du Seigneur. Alors, ce n'est pas une science exacte, mais le Seigneur est bon pour nous parler et nous convaincre si nous sommes prêts à ne pas nous attacher au principe de précaution. Encore une fois, je ne cherche pas en vous disant cette histoire à me glorifier en disant que j'ai pris des risques pour le Seigneur, parce que le Seigneur a dû me pousser plus d'une fois, et c'est plutôt moi qui ai fini par céder. Mais si c'est votre cas, je ne sais pas, peut-être parmi nous, il y a des gens qui se demandent, prêts à faire quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas nécessairement en implantant une église, ça peut être en s'engageant dans un ministère, en prenant sur soi de s'engager même à l'église, travailler auprès des enfants. Ça peut être, si le Seigneur vous parle, c'est toujours bon de l'écouter et de lui obéir. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de passages, et j'ai choisi un passage que vous connaissez sans doute tous, Philippiens 4. Philippiens 4, je vous invite à vous y tourner. On va lire ensemble. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément, et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Dans ce petit passage, Philippiens 4, on voit que là encore, ce qui compte, c'est d'avoir conscience de la présence du Seigneur. Il invite ses frères et sœurs de l'église de Philippe à tenir ferme dans le Seigneur, à ne pas se laisser décourager ou laisser tomber, à s'éloigner, s'égarer loin du Seigneur. Tenir ferme. On sent tout de suite le ton chaleureux de Paul envers les Philippiens, qu'il appelle ses très chers frères et sœurs. Il exprime son grand désir de les revoir parce qu'ils sont sa joie et sa couronne. Il les appelle ses bien-aimés. Et il a déploré ce qui est souvent le cas des soucis. Il le fait d'une façon très, très positive, mais des soucis avec ses relations, avec les relations entre personnes. Apparemment, il y avait deux personnes, Évodie et Saint-Tiché ou Saint-Tique. C'est pas Sainte-Nitouche, Saint-Tiché. Il leur demande de régler leurs problèmes et de vivre dans l'unité. Souvent, nos relations avec les autres peuvent être source de problèmes, de difficultés qui nous pourrissent un peu la vie. Et souvent, les soucis, c'est lorsque nous gardons des problèmes non résolus avec les autres. Lorsqu'on a des différends qui n'ont pas été résolus, ça reste et ça nous gêne. Ça trouble l'eau, ça cause du souci. Et donc là, il appelle son collègue à les aider. Parce qu'en plus, il leur rappelle qu'elles ont travaillé main dans la main pour annoncer l'Évangile. Et il nomme un autre Clément et d'autres collaborateurs qui sont sauvés parce que leur nom figure dans le livre de vie. Et il leur recommande vraiment de mettre leurs différends de côté et de vivre dans la présence de Dieu. Ça, c'est un bon remède contre ce genre de soucis. Je sais que ça ne vous concerne pas. Vous êtes en paix avec tout le monde. Mais si jamais vous pensez à quelqu'un lorsque je parle de ces choses, résolvez dans votre cœur de mettre les choses à plat, de demander pardon, d'accorder le pardon, même si l'autre ne souhaite pas vous pardonner. Faites-le vraiment de tout votre cœur et vous verrez que ce dont on va parler tout de suite après va être dans vos cœurs, la paix de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On a chanté tout à l'heure ce très beau chant sur... Notre pays, fais régner ta lumière, brille au Seigneur, que le Seigneur puisse briller sur la France. Je crois que ça commencera par les chrétiens qui arrêtent d'être pollués par le monde et qui arrêtent de rouspéter sur le gouvernement, sur les nouvelles lois, sur les projets, sur les programmes, sur tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes malheureusement connus pour être de grands rouspéteurs. Et nous, en tant que chrétiens, nous devrions être capables, avec l'aide du Seigneur, de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement avoir un sourire béat, un peu béné, un peu bébête. Alléluia à tout bout de champ. Mais c'est d'avoir cette quille dans votre navire qui fait que vous connaissez le Seigneur et la voile peut se déployer sans que le navire chavire. Cette voile, elle brille. C'est la joie que vous expérimentez dans le Seigneur. Et sachez que lorsque je vous parle, je me parle à moi aussi. Nous devons être dans la joie, parce que nous avons des raisons de nous réjouir. Nous sommes sauvés, Dieu nous a promis, encore une fois, ses promesses, d'être avec nous pour toujours. Nous avons peut-être des difficultés dans ce monde corrompu, mais nous avons l'éternité de joie avec lui en sa présence qui nous attend. Et encore une fois, l'éternité, c'est beaucoup plus grand que les 80, 100, 120 ans que l'on peut vivre ici-bas. Nous, on a tendance, c'est naturel, on est des êtres finis, on a tendance à se concentrer sur le moment présent. Et c'est souvent ce que je dis aux non-croyants, c'est que ils sont tellement soucieux de ce qui va se passer pendant leur vie, ils préparent leur retraite, les investissements, les taux d'intérêt sont au plus bas en ce moment, c'est le moment d'investir. Et puis il y a l'impasse qui est faite sur le reste de l'éternité. Les gens se soucient de leur retraite. Si ils sont vraiment prévoyants, ils prendront peut-être une assurance pour leurs obsèques, mais pour la plupart de nos contemporains, malheureusement, ça s'arrête là. Et nous avons connaissance d'un Dieu qui veut vivre avec nous dans la félicité, dans la joie, dans l'abondance, pour l'éternité. Ne pas en parler autour de nous, c'est très égoïste quelque part. Ou alors c'est un manque de foi. On vient à l'église, mais on sait qu'il y a, la Bible parle d'une éternité avec Dieu, mais on n'y est pas encore allé. On ne veut pas passer pour des illuminés, donc on ne veut pas parler de l'espoir qui nous habite, mais parlons aux autres de la présence de Dieu dans notre vie. Il est proche. Son retour est proche, mais là, il veut dire qu'il est tout près de nous. À n'importe quel moment, nous pouvons nous recueillir, penser à lui, lui remettre ce qui nous préoccupe. La présence de Dieu. Lisons les versets 6 à 9. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Le remède au souci, c'est cette paix de Dieu. Et là, il y a deux versets très fort, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par les prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, vos besoins, pardon, à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse ce que l'on peut comprendre, tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ça sous-entend que l'on a une façon d'agir sur nos soucis. Dieu ne dirait pas « Ne vous inquiétez de rien » si nous n'avions pas de contrôle de nos inquiétudes. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Le remède aux soucis pour avoir cette paix de Dieu, c'est la prière, bien sûr. Et là, il parle de différents types de prières. Le premier, c'est l'adoration. C'est le mot qui, en grec ancien, pouvait désigner le chien qui est demandé quelque chose à son maître en lui touchant de sa patte, en le touchant de sa patte ou même en léchant ses pieds. C'est une image très forte. C'est demander en reconnaissant qu'on peut rien, mais que lui peut tout. Un peu comme un enfant, un petit enfant qui sait que vous avez les clés du garde-manger ou vous pouvez ouvrir la porte de sa salle de jeu ou de jouets. C'est une dépendance reconnue. La prière. Les supplications, c'est souvent pour les autres, c'est l'intercession, c'est de demander à Dieu avec ferveur qu'il intervienne dans les situations. Et puis une caractéristique essentielle, c'est d'avoir cette attitude de gratitude. L'autre jour, on cherchait des t-shirts avec Nancy et je suis tombé sur un t-shirt qui parlait de l'attitude gratitude. Je ne l'ai pas acheté parce qu'il était un peu cher, mais j'ai trouvé bien que même des non-croyants, peut-être que ce sont des croyants, mais encouragent une attitude de gratitude. Lorsqu'on a une attitude de gratitude, le verre rempli à 50% est à moitié plein. Il n'est pas à moitié vide, 50% à moitié vide. C'est un changement de paradigme, comme on dit aujourd'hui. C'est de mettre des lunettes pour voir la réalité. Alors, c'est des lunettes roses, mais ça ne veut pas dire qu'elles détruisent la réalité. Au contraire, elles montrent ce qui est bon dans notre situation, dans nos conditions. Une attitude de reconnaissance. Et puis le verset 7, c'est intéressant parce qu'il nous dit que la paix de Dieu, ce n'est pas la paix avec Dieu qui est obtenue lorsque nous venons à Jésus-Christ, c'est quelque chose qui en dérive. Mais cette paix de Dieu, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et même au milieu de souffrances terribles, de catastrophes, de persécutions, on peut avoir cette paix de Dieu. Souvent, on nous demande de prier, on nous encourage, la parole nous encourage à prier pour nos frères persécutés. Une bonne requête, c'est une bonne intercession, c'est de demander que la paix de Dieu habite leur cœur. Bien sûr, on peut demander qu'ils soient libérés, qu'ils soient épargnés. Et on ne sait pas, moi je ne sais pas comment je réagirais si j'étais dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Si on venait me dire je vais être exécuté avec un groupe de chrétiens, qu'on va nous égorger devant une vidéo, tout ce que je peux espérer, c'est que Dieu me soutiendrait, qu'il serait avec moi et qu'il me donnerait sa paix, pour qu'il y ait un témoignage, mais rien n'est garanti. Mais prions pour que Dieu donne sa paix en toutes circonstances, pour nous d'abord, mais aussi pour nos frères persécutés qui sont vis-à-vis de choses qui nous paraissent inimaginables et qui malheureusement sont le reflet de la vraie nature humaine, capable des pires choses, des pires atrocités. Ne croyons pas que nous sommes au-dessus de ces atrocités, nous-mêmes, si nous ne sommes pas gardés par Dieu, si nous ne sommes pas consacrés à Dieu, la nature humaine est quelque chose de terrible. Le péché qui est entré dans la race humaine est une chose horrible qui n'a pas demandé moins que la mort du Fils de Christ pour être réglée. Et cette paix de Dieu, elle dépasse tout ce qu'on peut comprendre. On a un sujet de prière. Vous connaissez pour certains Daniel et Jennifer Flores qui sont à Lyon, qui ont commencé un travail d'implantation d'église près de Lyon, à Decimes, à côté de Lyon, et qui ont déjà trois garçons en bonne santé et qui viennent de découvrir que Jennifer est enceinte. Mais des premiers tests montrent qu'il pourrait y avoir un risque de trisomie 21. Et il faut prier que cela n'arrive pas, mais aussi prier pour le témoignage dans ces moments d'incertitude, le témoignage de Daniel et Jennifer. Ils remettent ce souci à Dieu et ils demandent la prière pour qu'ils puissent témoigner de la paix que Dieu leur donne. Et ils vont même refuser certains examens parce qu'ils disent au docteur: de toute façon, ça ne changera rien quant à notre décision. Dieu nous a donné cet enfant et nous l'aimerons. Nous le prendrons soin de lui, nous l'aimerons, nous le prendrons soin, nous l'élèverons avec l'aide de Dieu, quelle que soit sa condition. Ça, c'est la paix de Dieu qui dépasse l'entendement. On fait souvent des avortements dans notre monde, des avortements de confort, parce qu'on se dit j'ai un enfant de plus, ça va coûter trop cher, ou j'ai pas encore de situation, je fais des études, je peux pas, lasse. Et après, il y a les avortements pour cause de défauts génétiques. On sait que le Seigneur, si les choses sont trop mauvaises, peut lui-même mettre fin à la grossesse par une fausse couche. Mais ce qui est beau, c'est de voir des enfants de Dieu qui font confiance à leur Père. Et Dieu leur donne sa paix. Prions pour eux et gardez-les dans les prières. Il dit que cette paix de Dieu, elle gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a cette expression « en Dieu », « dans le Seigneur », « en Jésus-Christ ». Tous ces conseils, ils ne sont valables que si vous êtes vraiment en relation avec Dieu. Si vous avez fait de lui votre Seigneur, votre Maître, votre Sauveur. Et cette paix de Dieu, le terme, ça décrit quelqu'un, garder votre cœur et vos pensées. Ça décrit quelqu'un qui monte la garde, comme un soldat qui fait les 100 pas devant une caserne ou devant un lieu à protéger. Cette paix de Dieu, elle est comme un bouclier. Elle empêche les soucis de venir vous attaquer, de vous jeter des pierres. Paul, dans Éphésiens 6, parle du bouclier de la foi, et cette paix, elle en résulte de la foi, et elle nous garde. Elle garde nos cœurs. Dans les Proverbes, il est dit qu'il faut garder nos cœurs, car de lui viennent les sources de la vie. Tel que nous sommes dans notre cœur, tel nous allons être à l'extérieur. Et nos pensées en Jésus-Christ. C'est intéressant, il y a certaines philosophies ou approches religieuses qui disent que pour avoir la paix, il faut arrêter les pensées. Il faut supprimer nos pensées. On essaye, on va chanter. On fait le vide. Mais on sait franchement qu'on est ainsi fait que c'est un miracle de Dieu qu'on ne peut pas s'arrêter de penser. même quand on fait on pense que ça va nous aider à arrêter nos pensées. Et là, il va nous donner des conseils. Puisqu'on ne peut pas arrêter de penser, pensons aux justes choses pour éviter les soucis. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Alors c'est vrai, on est bombardé de publicités, de fausses nouvelles. Il paraît qu'hier, on a annoncé la mort de Johnny Hallyday. Et il a répondu sur Twitter qu'il était bien là. Ce qui est vrai, la publicité. La publicité, c'est typiquement du mensonge pour nous faire consommer. Prenez ce shampoing et vous allez voir que vos cheveux vont repousser. J'ai dépensé quelques euros, même quelques francs, quand j'étais plus jeune, pour des poudres de perlimpinpin qu'on mettait dans les cheveux. Tout ce qui est vrai, mais aussi ce qui est vrai spirituellement, les philosophies. Quand j'explique mon parcours avec Dieu, je dis qu'au début, j'étais élevé dans une famille catholique. J'avais une foi sincère d'enfant. Je ne connaissais pas Jésus comme mon sauveur personnellement. Mais je dis qu'après les études dans le secondaire avec les grands philosophes français, les Camus et Sartre étaient passés par là. L'existence précède l'essence. On ne sait pas pourquoi on est un accident, mais on va trouver une raison d'être après tout. Oui, il n'y en a pas, mais essayez de vivre quand même. Tout ça, ce sont des mensonges qui ne sont pas la vérité. Ta parole est vérité, Jean 7, nous dit la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Soyons préoccupés, imprégnons-nous. Lisons, mémorisons, travaillons, étudions, vivons, mettons en pratique la parole de Dieu. Elle nous fait du bien. Comme elle m'avait fait du bien alors que je n'avais pas encore connaissance vraiment de Jésus personnellement, mais ce petit livre, cette parole, me faisait du bien. Vous êtes tous familiers avec les calendriers de la bonne semence. Et c'est incroyable le nombre de personnes non chrétiennes qui, après avoir reçu ce calendrier, vont vous le demander. Parce que quelque part, la vérité, on la ressent. On se dit, il y a des paradoxes, il y a des vérités qui nous touchent parce qu'on se dit, après tout, mais c'est vrai, c'est ça la vérité. Ce qui est vrai, ce qui est honorable. Ne regardons pas la télé-réalité. Je suis souvent stupéfait de voir comment les gens peuvent se passionner pour des choses qui sont mises en scène, qui sont le résultat de casting, pour trouver des personnes qui vont s'opposer, des personnes qui vont s'attirer. Et on les met tous et on les livre en pâture pour faire de l'audience, de l'audimat, vendre de la publicité. Souvent, c'est loin d'être honorable. Ce qui est plein d'honneur, ce qui est juste. On peut se préoccuper, se fixer nos pensées sur des choses qui ne sont pas justes. Et pourtant, on a tous cette soif de justice. C'est pour ça que les enfants, dès le plus jeune âge, disent « mais c'est pas juste ». Si Dieu n'était pas là pour inculquer au plus profond de nous ce sentiment de quelque chose de juste et de pas juste, nous ne saurions pas faire la différence. Mais là, nous devons mettre nos pensées sur ce qui est juste, ce qui est honorable. tout ce qui est pur. Encore une fois, la pureté de nos pensées, la pureté de nos cœurs. Pour voir le Seigneur, il faut avoir le cœur pur, nous disait Jésus. Et nous sommes dans un monde qui est plein d'impureté. Nous avons un accès aujourd'hui terrifiant à n'importe quoi sur Internet. La pornographie la plus avancée, la bestialité, et c'est en quelques clics, on peut satisfaire cette vieille nature qui veut toujours voir des choses impures, qui n'est pas digne. C'est un vrai problème dans notre société, non seulement pour les hommes et les jeunes garçons, mais aussi, on me dit, pour les femmes même. Et là aussi, c'est une décision. On peut trouver des relations de vis-à-vis pour s'encourager à résister, à ne pas être tenté, savoir éviter les tentations, mettre des filtres sur nos sites, sur nos ordinateurs, nos tablettes, etc. Fixez vos pensées sur ce qui est pur, ce qui est digne d'être aimé. Ce qui mérite l'approbation, les choses dont nous n'aurions pas honte. On dit souvent, est-ce que vous resteriez dans la salle si on pouvait visualiser sur l'écran les pensées qui vous traversent même en ce moment? Est-ce que nos pensées méritent l'approbation? Est-ce qu'on peut les partager? Ce qui est synonyme de piété ou de qualité morale. C'est une bonne chose de lire des livres édifiants, de vie de missionnaire, plutôt que de prendre des romans de gare, comme on dit, qui souvent n'ont pas une grande valeur littéraire. Mais il y a tellement de belles choses qui ont été écrites, qui sont des encouragements à nous dépasser moralement. Ce qui est digne de louange. Pensez à Dieu, pensez à Jésus-Christ, pensez à son sacrifice, pensez à ceux qui sont inspirés par lui pour faire des choses pour le royaume. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec moi. C'est toujours impressionnant la façon dont Paul était capable de se mettre en exemple de ce qu'il fallait faire. Bien honnêtement, je ne me sens pas en état de vous dire « faites ce que je fais ». Je vous dis « faites ce que je vous dis », parce qu'en principe c'est tiré de la parole, mais je prie pour que ma vie soit de plus en plus en accord, et on devrait avoir tous la capacité de dire « faites comme moi », parce que moi j'essaye de faire comme Jésus, comme Paul et comme Jésus. Et toujours cette paix de Dieu qui sera avec nous. Un autre aspect, c'est la puissance de Dieu. Verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Donc là, il fait allusion à une collecte qui lui a été envoyée par les habitants de cette ville pour le soutenir financièrement. Et il leur dit, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait dans ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être assasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Et finalement, parce que je peux tout par celui qui me fortifie, parlant de Christ. Donc il le remercie, pour le don qu'ils lui ont fait parvenir. Mais il leur dit, en fait, il les remercie non pas tellement parce qu'il est heureux que ses besoins vont être satisfaits. Il va leur dire que c'est parce que, verset 14, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Et verset 17, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. » Il leur dit que ce qui compte, ce n'est pas tant le fait que ses besoins aient été satisfaits, mais c'est qu'ils ont fait ce don. Et ils ont investi dans un compte éternel que rien ne peut voler, ni les voleurs, ni une catastrophe boursière, un investissement qui ne va pas rapporter de dividendes. Au contraire, un fruit abondant va être porté sur leur compte. Et ça aussi, ça fait partie du combat contre les soucis. On ne parle pas beaucoup de la dîme, des offrandes, mais on les reçoit. Il y a une boîte qui est près de la porte. C'est une façon importante d'adorer Dieu. Dieu veut qu'on le fasse d'un cœur libre et volontaire. C'est à vous de voir combien le Seigneur veut que vous donniez. Mais ce don, qui peut paraître à vue humaine comme une dépense inappropriée, il y a d'autres personnes dans l'Église qui sont plus riches que moi, qui vont permettre à l'Église de faire face à ses obligations financières. Le fait que vous faites ce don, c'est une façon de dire à Dieu que vous l'honorez et que surtout vous lui faites confiance. Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'en tirer ce mois-ci, mais je veux t'honorer par ce don, et ça peut être un pourcentage, ça peut être un don que le Seigneur vous inspire, ça peut même être un don extravagant. Et ça va vous aider à, d'une certaine façon, à vous libérer des soucis de ressources, des soucis financiers, parce que vous faites confiance à un Dieu qui, comme le dit le psalmiste, possède tout le bétail sur toutes les collines. Ça fait du bétail. Il a toutes les ressources et c'est lui qui nous permet d'être fortifié. Je peux tout par celui qui me fortifie. Tout seul, je ne peux rien faire, mais en Christ, je peux lui faire confiance, je n'ai pas de souci à me faire quand je lui obéis, que ce soit dans la dîme, dans d'autres projets. Mais Paul exprime la puissance de Dieu comme une façon d'avoir la victoire contre les soucis. Dernier point, on a déjà fait allusion par ces versets, c'est la provision de Dieu. Verset 14, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions, vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu, merci, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite, qui était l'intermédiaire, ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, sur la gloire au siècle des siècles. Amen. » Il les remercie, encore une fois, parce qu'ils n'étaient pas nombreux à le faire, ils étaient même les seuls parmi les églises qu'il avait suscitées, qu'il avait commencées, et il avait fait plus d'une fois. Et ce qui comptait pour lui, c'était que cet investissement soit porté sur leur compte. C'est eux, en définitive, qui étaient les bénéficiaires. Lui, il était comblé, il les remerciait, il était plein de gratitude, mais il leur fait remarquer que ce don, c'est aussi un don qu'on fait à Dieu. Lorsque vous faites un don à l'Église ou un don à un serviteur chrétien ou à quelqu'un d'autre, c'est comme vous le faites à Dieu et c'est un parfum de bonne odeur. J'ai jamais pensé, mais maintenant l'idée me vient, on devrait vaporiser la boîte à offrandes avec un peu de parfum de lavande, de rose, un parfum de bonne odeur. La fumée des parfums monta avec des prières des saints de l'ange devant Dieu. On parle bien sûr des prières, mais on peut prier avec son porte-monnaie. Vous ne saviez pas, mais c'est une façon de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». À notre Dieu, finalement, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas votre générosité, ce n'est pas la mienne. C'est ce que nous inspire le Seigneur, parce qu'il veut nous libérer des soucis. Saluez finalement chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Les soucis, souvent des soucis matériels, et comme je en parlais, on aurait pu regarder Matthieu 6, 25 à 34, où il est dit de ne pas nous inquiéter pour notre vie, de notre nourriture, de nos vêtements. Il nous dit vraiment, cessez, stoppez de vous inquiéter, stoppez d'avoir des soucis. L'inquiétude, c'est le mot qui veut dire diviser en grec. Et le mot de paix, c'est le mot qui veut dire être réuni. Il n'y a plus une tension entre nos désirs et la réalité de ce que nous recevons. Nous ne sommes plus étranglés, c'est ce que veut dire le mot d'angoisse, anxiété. Et on a encore une fois plein de raisons d'avoir des soucis si on ne regarde pas à Dieu. Dieu prend soin des oiseaux, il prend soin des fleurs des champs. La semaine dernière, j'ai fait une randonnée d'une semaine avec un groupe et c'était stupéfiant de voir les champs de lavande qui poussaient naturellement. Des fleurs bleues intenses, d'autres des fleurs des chardons, des fleurs d'un rouge fluorescent. Quand on regarde le détail, on ne trouve pas ça chez H&M. On ne trouve pas ça chez C&A, ni aux Galeries Lafayette. J'aime bien ce que disait un écrivain chrétien contemporain, Brennan Manning, qui dit que le diable veut nous faire habiter dans la maison de la peur, mais que Dieu nous invite à vivre avec lui dans la maison de l'amour. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous. Tu es ce Père qui prend soin des oiseaux, des fleurs, et tu es le même. Tu es vraiment notre Père. Pour les oiseaux, tu n'es qu'un créateur. Pour les plantes, tu n'es qu'un créateur. Mais tu es notre Père, Seigneur. Merci de nous montrer par ta parole et de nous le répéter maintes et maintes fois, Seigneur, que nous pouvons avoir la victoire sur les soucis. C'est ce combat de la vie qui nous poursuit si nous ne tournons pas vers toi à chaque instant, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance, à t'honorer par notre confiance, Seigneur. Merci de ce que tu veux nous habiter par ta présence, nous donner ta paix. Nous invite à prier juste, à penser juste, à vivre juste. Tu es tout puissant, Seigneur, par toi nous pouvons tout faire. Et Seigneur, tu pourvois à tous nos besoins. Nous n'avons pas de raison de nous soumettre à nos soucis, Seigneur. Aide-nous à tourner nos soucis en prière en motif d'adoration, Seigneur, motif d'intercession, motif de gratitude, parce que tu réponds et tu nous aimes, Seigneur. Aide-nous à vivre dans la maison de l'amour, Seigneur. Aide-nous à reconnaître les tentations, les péchés comme des invitations de l'ennemi à vivre dans la maison de la peur. Donne-nous la victoire, Seigneur. Merci parce que en toi, elle est acquise. Donne-nous de nous en rappeler, Seigneur, tout au long de nos jours, de nos semaines, de nos ans, Seigneur, lorsque nous avons des préoccupations fortes, des revers de fortune, Seigneur, et il y a des soucis légitimes, des choses que nous devons prendre en compte pour prendre des décisions, mais ça ne doit pas être un obstacle à notre relation avec toi, Seigneur. Aide-nous à t'adorer par la foi, Seigneur. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes de foi en toi. Prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.